Il est de retour chez votre marchand de journaux, Dirlotte, pour le mois de novembre et le mois de décembre, le dernier numéro de l'année. Bonjour Vincent Besserve.
Bonjour.
Directeur de la publication de Dirlotte. Oui, c'est effectivement le dernier numéro de l'année, ça y est, hein, ça passe vite, mine de rien. Hein.
C'est ça, une année de plus, on est déjà sur les numéros de 2022.
Bon, évidemment, on ne va pas te demander de quoi il va être sujet, ça sera la bonne surprise, bien sûr.
Exactement. Hein,
on va la garder quand même, la surprise. Par contre, dans ce numéro-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'on parle autant de... Alors, on va expliquer ça un petit peu, mais on parle autant de choses plus naturelles que de projets plus dans la ville. Par exemple, j'ai vu que vous avez fait une enquête sur Prayssac.
Exactement, Prayssac, où on est allé poser nos valises pendant quelques jours pour s'immerger et humer un petit peu l'atmosphère de cette ville. Et l'idée était de mettre en avant justement toutes les initiatives qui peuvent être menées tant au plan commercial qu'associatif, culturel, sur le Prayssac et son pays. Et on a fait de belles rencontres, et notamment la responsable du cinéma de Prayssac, qui est un cinéma qui a réussi à faire jusqu'à 500 entrées par semaine dans la période de Covid. Voilà, donc il y a de la vie en zone rurale et Prayssac en est un bel exemple.
Donc les acteurs sont mis en valeur et évidemment vous parlez du futur de Prayssac.
Oui, un numéro qui intègre de la prospective sur Prayssac, tout comme on l'a fait sur un deuxième dossier dont on va sans doute parler, sur Cahors.
Eh bien exactement, bah, parlons-en alors, puisqu'on y est effectivement. Cahors, là aussi, vous êtes, j'allais dire, vous avez posé vos valises à Cahors, enfin c'est pas très compliqué.
Ouais, on n'était pas loin.
C'est pas loin. Là aussi, c'est, là vous intéressez pas trop à l'histoire, mais vraiment, vraiment au vrai futur de Cahors.
Bah, l'idée c'était d'essayer de relater un petit peu tous les projets qui sont en cours sur cette ville. On parle de reconquête du centre-ville, de réappropriation par les habitants de ce centre-ville. C'est vrai qu'il y a quand même depuis plusieurs années pas mal de rénovations qui ont été accompagnées, de dynamiques qui se sont mises en place et aujourd'hui de perspectives pour les années à venir, au travers notamment de la rénovation du palais de Via, qui est le gros projet des années à venir et sur lequel on est rentré, enfin tout est écrit dans le dossier, mais sur lequel on s'est consacré pleinement pendant les deux mois qui ont précédé la sortie du magazine.
Voilà, vous vous êtes arrêté sur le palais de Via, mais c'est vrai qu'il y a plein de bâtiments inoccupés qui sont maintenant repris effectivement en charge, si je puis dire, pour que ça soit effectivement occupé. Voilà, ça c'est pour l'avenir. Maintenant, on va parler plaisir aussi. Tiens, ça fait du bien. Alors là, il faudrait, dans ce numéro, vous expliquer le projet d'une vigne qui est assez particulière, qui est dans le Grand Figeac. Alors, oui. Particulière parce que c'est pas une vigne comme les autres.
Ben non, d'autant que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de vignes, puisque le Quercy était planté jusqu'au phylloxéra. Mais depuis, on a vu la vigne disparaître et se concentrer sur la zone sud de la vallée du Lot principalement. Là, on est parti à Figeac, du côté de Figeac, où un projet a été mené au travers d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, avec une multitude de sociétaires qui se sont investis dans un projet de replantation de différents cépages sur le pays de Figeac, vers le lycée de la Vinadie. Et l'idée est de recréer un vignoble, enfin de redonner vie au vignoble d'antan, tout simplement.
Donc ils veulent refaire du vin.
C'est ça, et la première cuvée est sortie.
Ah, et la première,
sur un millésime extrêmement compliqué, parce que ça fait 2-3 ans qu'on a des aléas climatiques qui imposent beaucoup de contraintes et qui limitent dans les possibilités. Mais une première cuvée est sortie. On espère que d'ici 2-3 ans, toute la gamme des vins soit disponible.
Ça veut dire qu'il y a un sacré paquet d'hectares dedans?
Non, on n'est pas sur des grandes surfaces, ça reste confidentiel, mais on doit pouvoir imaginer une déclinaison de cuvées sur ce territoire-là. Mais c'est une belle renaissance que celle des vignes figeacoises.
Et vous saurez tout dans le numéro de Dirlotte. Et puis, puisqu'on parle de vin, justement, et de phylloxéra, c'est quoi la phylloxéra?
Ah, c'est une maladie qui a condamné la vigne il y a bien longtemps, 1860. Peut-être que je me trompe sur la date, je ne l'ai plus.
Bon, en tout cas, il y a longtemps, oui.
Mais qui a vu disparaître finalement la plupart des vignes françaises. Et ensuite, on a replanté pour connaître le vin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'est de mener un dossier qu'on a réalisé en partenariat avec la Société des études du Lot, qui vient de sortir un livre sur la véritable histoire des vignobles de Cahors et plus largement du Quercy, puisque le territoire est quand même plus vaste.
À partir du 8e siècle, hein, quand même.
Ouais,
on a remonté les archives.
Hein. Et jusqu'au phylloxéra, pour le coup. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est sur une histoire très, très factuelle, non romancée, qui va peut-être faire tomber quelques mythes, mais qui, pour le le coup, relate la réalité, ou en tout cas au plus proche de la réalité, de ce qu'a été ce qu'ont été les vins de Cahors et du Quercy.
On aurait créé des légendes, en quelque sorte, autour du vin de Cahors.
On peut parfois habiller un petit peu les choses.
Habiller un petit peu les choses, c'est ça, sympathiquement dit. Et puis en plus, c'est un livre que l'on peut trouver chez le libraire. Et si vous hésitez encore à savoir si vous pouvez le lire, eh bien, intéressez-vous à cet article où on s'intéresse effectivement à cette histoire des vignes et des vins du Quercy. Autre chose qui est un peu plus... on reste un petit peu dans le naturel, d'ailleurs, entre parenthèses. Et là, c'est vrai que c'est un sujet... à mon avis, qui a dû vous demander pas mal de recherches. Parce que quand on parle de forêt lotoise, eh bien, c'est qu'il y en a un petit paquet quand même de forêts dans le Lot.
Oui, on a un gros réservoir naturel ici dans ce département. Et il faut savoir que le taux de boisement du département du Lot est de 41% supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est pour dire qu'on a quand même un territoire très boisé avec une multitude de propriétaires, plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs. Là, on peut avoir quelques mètres carrés, je vais dire, ou quelques hectares. Mais c'est un dossier assez intéressant et immersif qui nous a permis d'aller à la rencontre de celles et ceux qui justement veillent à ce que la diversité soit maintenue et qu'on n'ait pas une sorte de monoculture d'arbres. Donc on découvrira ce qu'est la forêt lotoise au travers des hêtres, au travers des chênes bien évidemment, mais aussi des pins maritimes, et on en compte beaucoup, ça peut paraître surprenant. Donc on est allé à la rencontre de ces gens-là, et de belles rencontres.
Et ce qui est intéressant dans cet article, mais là vous en découvrirez un petit peu plus, c'est que ce sont quasiment dans le Lot, c'est que des forêts privées. Alors ça, c'est étonnant d'ailleurs.
Ouais, il y en a énormément. Énormément, ouais. C'est la grande dominante. Et puis une diversité de forêts entre ce qu'on peut trouver en Bourriane, ce qu'on peut trouver sur le Cos, puisque le Cos, c'est la majeure partie de la forêt lotoise. Et puis dans le Ségala, allié aux confins de l'Aveyron et de la Corrèze et du Cantal, il y a une belle diversité et un dossier qui, à mon sens, est intéressant.
Voilà, vous le saurez en disant dire Lot de ce mois-ci, enfin de cette fin d'année, on va dire plus précisément. Jean-Vie, votre journaliste qui a été s'immerger dans le parc animalier de Gramat pour faire un soigneur animalier d'un jour.
Soigneur d'un jour, ouais, c'est quelque chose une offre qui a été médiatisée au travers de, je crois que c'est le zoo de la Flèche notamment, qui a été pas mal médiatisé à la télévision, avec des offres d'immersion comme ça et de rencontres avec les soigneurs et au plus près des animaux. Et le parc animalier de Gramat a mis en place cette proposition qui se fait pour un ou deux enfants, donc on est vraiment sur quelque chose, c'est plutôt pour des enfants, mais il y a des grands enfants qui peuvent s'intéresser à ça, où on va vivre le quotidien d'un soigneur dans les soins qu'il apporte, dans l'alimentation qu'il amène à chaque animal, et ça permet de découvrir aussi toutes les espèces qui sont recensées dans le parc, des animaux qui sont, c'est aussi un conservatoire d'animaux, ce parc animalier. Donc on prend quelques frayeurs quand on s'approche tout près des loups ou des ours, et on en apprend beaucoup quand on comprend pourquoi certaines espèces sont protégées ou justement des espèces que l'on chasse parce qu'elles elles nuisent à l'équilibre de l'écosystème.
Voilà. Enfin, que l'on dit en tout cas.
Que l'on dit, mais pour certaines qui sont arrivées notamment des États-Unis, certaines dérégulent finalement ce qui était la faune existante, et c'est assez intéressant d'aller le décrypter, le comprendre auprès d'un soigneur formé et diplômé pour en parler.
Le reportage en immersion est à lire. Donc, rencontre aussi avec une fille qui s'intéresse à l'art primitif. Alors, j'ai dit primitif, mais je crois qu'il y a un autre terme en fait.
C'est le bon terme, mais c'est aussi l'art pariétal.
Pariétal, voilà.
Audrey Rocaro, installée à Montcuq, qui est artiste et qui, au-delà de ses créations, propose également des ateliers d'initiation. Elle travaille tout simplement sur les traces laissées par les premiers hommes dans les grottes. Et elle a été séduite par des découvertes de cavités il y a une dizaine d'années. Et ça l'a inspirée, ça lui a donné envie d'essayer de travailler les pigments. Et aujourd'hui, elle fait tout un travail autour des pigments pour essayer de retranscrire l'atmosphère telle qu'elle l'a perçue ou telle qu'elle imagine que les hommes premiers le percevaient, et également quand ces hommes premiers sortaient et voyaient la voûte céleste sans avoir d'explication scientifique. Elle essaie de le retranscrire dans un travail assez figuratif qui est intéressant et qui mérite le détour à Montcuq, à voir en allant vous balader. Son atelier est ouvert et on peut même y participer.
Et ben, c'est ce qu'on appelle une passionnée en tout cas, hein, ça c'est sûr.
Exactement.
Et puis Biodirlot, c'est aussi les bonnes adresses hein, du Lot, forcément. Alors, bonnes adresses déjà dans un premier temps avec les restaurants et notamment à Martel.
Oui, où là on est allé sur une table auberge qui est tenue par une famille qui est initialement plus connue dans l'univers de la culture de la noix du Périgord et qui possède deux restaurants, un établissement en centre-ville, le Petit Moulin et la Table du Moulin qui est une table juste à côté du moulin historique qui est toujours en activité et qui est une très très belle découverte d'adresse.
Et puis le domaine des Gravelous aussi.
Les Gravelous, oui. Les Gravelous du côté de Pescadoire, domaine viticole tenu par Hervé Fabreau qui nous a permis de découvrir 4 cuvées de grande qualité et qui montrent une belle palette des aromatiques et des profils qu'on peut avoir au travers du cépage Malbec.
Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est le numéro de novembre-décembre, donc on l'a dit, c'est le dernier numéro de l'année, et que c'est bientôt Noël, et là aussi, les bonnes adresses pour les cadeaux de Noël, c'est dans Dirlot, avec cette fois, on reste évidemment lotois.
Oui, on l'avait finalement jamais fait, l'idée d'imaginer une sélection de produits qui puisse se faire autour de réalisation de savoir-faire 100% locaux, et c'est ce parti pris qui a été le nôtre pour essayer de mettre en avant plusieurs artisans et des exemples de réalisation qui peuvent faire plaisir à des messieurs, à des dames, à des enfants, tous âges, tous sexes, peu importe, mais des idées cadeaux 100% lot sélectionnées par la rédaction.
On parle du mouton givré hein, qui d'ailleurs a fait le salon Made in France, de la coutellerie Fabre,
Tout à fait, de Sacré Lotois qui est une marque qui s'est créée sur de l'illustration d'affiches et de textiles aujourd'hui et qui met en avant finalement au travers de l'image hein, et de l'illustration plutôt, différents lieux et sites majeurs du département. Donc de beaux ambassadeurs en termes de savoir-faire du département de Lot.
Et tout est à découvrir dans ce nouveau numéro de Dirlot, sans oublier la partie agenda avec les spectacles aussi à ne pas manquer dans le
coin. Qui s'enrichit, hein,
ça nous manquait quand même. Hein,
un petit peu, il y a une belle dynamique avec une énorme programmation de scénographes du côté de Saint-Céré à découvrir et il y a de quoi faire pour les fins d'année.
Et c'est clair. Et faites-vous plaisir aussi avec le numéro d'Irlot qui est chez votre marchand de journaux. Le prochain numéro, c'est le mois de janvier, donc il faut se dépêcher à découvrir ce numéro-là.
Il n'y a plus que 7 ou 8 semaines.
Et ça va vite. Hein. C'est de l'évasion en tout cas dans le Lot avec d'Irlot chez le marchand de journaux. Merci Vincent Besserve.
Merci beaucoup.